Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Ne demandait rien. Et là, une autre, elle va en vouloir et se dit. Moi, j'aime mieux si garder mon petit oiseau bien au chaud au lieu de le sortir et le mettre dans n'importe quoi et attraper peut-être n'importe quoi. Et puis il aime mieux de sortir seul en pensant à la caresse de Florent sur sa jambe. Et plus loin, elle le voit triste, lui donne un baiser sur la joue, et lui dit, allons, courage. Regardez-moi, j'ai du courage. Elle vient de voir un charmant jeune homme qui la lorgne à la table voisine. Après le repas, il lui demande « Je vous raccompagne ?» et lui dit « Oui, bien sûr, mon gros mignon !» Et il la raccompagne. Puis, ils se disent adieu et s'en retournent. Le lendemain matin, il prévient Judith par téléphone dans son bureau. Elle lui dit « Vous en êtes débarrassé, vous devez être content. » Il dit « Oui, non, vous n'auriez pas une autre fille, belle et tout, mais qui ne ressente rien pour moi, mais qui soit très belle comme elle. » Elle lui fait « Mais pourquoi ?» Il lui dit « Parce que c'est bien pour mon standing. Et puis, je ne veux pas d'une fille qui veut faire des choses dont je n'ai pas envie. » Elle lui fait « Je vois. Mais une personne comme ça pour le moment, juste pour être amie, je ne vois pas. » Et puis, vous, je suis sûr que vous préfériez Gilbert. Vous avez un faible pour lui. Mais attention, pour la fille, il faudra continuer à la surveiller. Attention, elle est très dangereuse. Alors, si vous trouvez un petit ami, ma foi, Harold lui dit, « Merci, mais j'espère c'est que cette fois, si j'en trouve un, vous me le laisserez et ne ferez pas comme avec mon petit marin. » Elle lui dit, « Non, ne craignez rien. Choisissez-le charmant, d'une famille modeste. Comme ça, vous ne risquerez rien. » Un chômeur. Non. Charmant. Et d'une famille modeste. Ça ira très bien comme ça. Brigitte prévient sa famille qu'Harold et elle, c'est fini. Elle le leur dit alors qu'ils sont dans le salon à boire un apéritif.
Harold et moi, c'est fini.
Auguste la regarde, surpris, et lui demande « Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Vous vous êtes disputé ?»
Elle lui dit « Non, pas du tout, mais nous entendons peut-être pas assez du point de vue privé. »
Il lui dit « Je ne savais pas que tu étais frigide. » Elle lui répond vexée
« Ce n'est pas moi, mais plutôt lui. Ça fait des mois qu'il dort dans mon lit et qu'il ne se passe rien. Monsieur dort. »
Il lui dit, « Tu l'as effarouché avec tes grands airs. »
Elle lui répond, « Pas du tout, bien au contraire. C'est moi qui proposais tout et même qu'il déshabillait. »
Frédéric se met à rire. Eric s'imagine sa tante déshabiller Harold.
Amélie lui, « Tu es complètement folle et tu n'y connais rien aux hommes. Ils veulent toujours mener le jeu. Tu l'as frustré et chantré, le pauvre homme. »
Auguste lui dit, « Je ne savais pas que ma fille était militante fasciste. Ex-68arde, retardée. »
Dit, « Mais non, pas du tout. Et je sais que le sexe des hommes est une chose très fragile.
J'ai lu ça dans France Dimanche, où une actrice célèbre raconte ses déboires amoureux. C'est à mourir de larmes. Tous ces grands hommes qu'elle a connus, qui sont devenus impuissants, un président d'Amérique et 15 des plus beaux comédiens. »
Auguste est furieux et se dit que sa fille va devenir vieille fille et que lui n'aura pas de petits-enfants. Puis il lui dit,
elle peut, si elle veut, en adopter un.
Les jours passent. Brigitte oublie Harold, d'ailleurs elle ne le voit plus. Comme elle est belle, jeune et riche, elle se dit qu'elle trouvera bien quelqu'un. Elle travaille toujours chez Franblanc.
Son travail n'est pas très intéressant. Toujours la même chose. Des gens qui refusent de quitter leur appartement. Elle doit trouver une entente avec eux. Leur proposer une bonne somme, un autre appartement. S'ils sont pauvres, bien entendu en banlieue,
ou une maison de retraite ponctoie. Pour les convaincre, elle leur fait miroiter une vie meilleure dans de bonnes conditions, un logement neuf avec tout le confort. Et la somme leur permettra de s'acheter tout ce qu'ils désiraient depuis des années, ou de la faire fructifier dans le groupe à 25%. Les bénéfices seront mis tous les ans sur leur compte. En plus, il y aura des avantages de toutes sortes, tels la télévision câblée, gratuite, vacances dans un pays de rêve, soins à domicile gratuits pendant 6 mois, après crémation gratuite. Bien sûr, 50% de l'héritage ira au groupe, mais une fois que l'on est mort, n'est-ce pas, la plupart du temps, ces offres, elle les fait par lettre. Mais des fois, pour des cas particuliers, elle reçoit la personne au siège et essaye de les convaincre. Elle doit faire vite, parce que l'équipe de démolition attend. Elle doit régler 5 départs par semaine. Et c'est elle qui doit donner l'ordre pour le faire. S'il n'arrive pas à avoir ces 5 dossiers prêts, c'est l'expulsion, police, mutants, etc. Ce qu'elle fait, c'est du travail à la chaîne. Et si elle ne va pas assez vite, elle marque sur le dossier, sans le lire, en lettres rouges, expulsion, pour faire son tape de la semaine. Parce qu'elle est obligée de le faire. Ça arrange le groupe, car plus il y a d'expulsions, mieux ça vaut. Il dépense moins. Il n'y a rien à la personne expulsée.
Toutes les voies d'accès au quartier ont été fermées. Le périphérique a été miné. Dégagez toutes les rues. Rendez-vous dans la station de métro la plus proche, Irespésie. Dégagez la rue. Toute personne se livrant au pillage peut être abattue à vue. Je répète.
Mais la personne qui n'est pas expulsée, il leur donne une fortune. Remarquez qu'après la mort de la personne, ils récupèrent presque tout. Ils ramassent tous leurs biens et c'est net d'impôts. Parce que le groupe le plus puissant du monde ne paye pas d'impôts, ni la sécurité sociale, ni les retraites, rien. C'est un accord qu'ils ont avec tous les États du monde. Le groupe est un peu un État comme la Suisse, mais qui n'a pas de frontières, qui est souverain où il se trouve. Vive la mondialisation, les grands groupes. Et le groupe Franc-Blanc est un groupe à part des groupes. Il est le plus grand, le plus puissant. C'est lui qui détient le monopole du bâtiment, de la biotech, du multimédia, de l'alimentation, de l'eau. Des transports, terre, mer, air. Les autres groupes, les autres entreprises travaillent en sous-traitance pour eux. Et tous les États ne peuvent se passer de lui. Le groupe détient la Terre et l'univers parce qu'il prépare la conquête de l'espace. Quant aux Bosch, dans tout ça, ils ne sont rien. Rien du tout. Ils sont surveillés. Parce qu'on en a peur qu'ils créent un scandale et que le président Gilbert Framblanc en soit éclaboussé et que ça nuise pour son mariage. Donc, le groupe Framblanc expulse les gens volontairement ou involontairement. Pour ceux qui leur proposent de l'argent ou un nouveau logement, ensuite, il récupérera tout ça. Et en leur proposant un nouveau logement et un logement, il leur propose aussi des services, télévision câblée, eau, soins, vacances, soins à domicile, vacances. Et tous ces gens termineront dans les maisons de retraite Pontoise. Pour ceux qui sont expulsés, la Framblanc leur prend tout à eux. Aussi. Les pauvres qui sont expulsés, on les met en banlieue ou dans des maisons de retraite. De toute façon, la Framblanc hérite des gens qu'ils expulsent. Et la sœur d'Auguste s'occupe de ses dossiers. Le groupe Framblanc a le monopole de beaucoup de choses et peut tout. En réalité, c'est lui qui dirige le monde et non les gouvernants. Et n'appartiennent à aucun pays. Ils sont comme la Suisse, et mieux que la Suisse, puisqu'ils n'ont pas de terre, ils sont de partout. Auguste est fâché contre sa fille, à cause d'elle, il risque de ne pas avoir d'héritier. Parce qu'elle a rompu avec Harold, il lui bat froid. Il se dit qu'elle est idiote. Il se dit qu'elle est idiote. Qu'est-ce que ça peut lui faire qu'il dort ou pas dans son lit ? Un soir, furieux, pendant le repas, il lui dit « Il a bien le droit de dormir, ce pauvre homme. Il a le droit d'être fatigué, non ?» Elle lui dit, « Mais de quoi tu parles ?»
Il dit, « Tu sais très bien, ce pauvre Harold !»
Elle fait, « Ah ?»
Il lui dit, « Tu voulais l'empêcher de dormir, le pauvre homme ?»
Elle lui dit, « C'est pas ça, il faisait que ça, et depuis des mois. »
Il lui dit, « Et alors, vous les femmes, quand vous voulez pas, vous dites non, j'ai la migraine. » J'ai ceci, j'ai cela. Est-ce qu'on en fait des histoires? On est bien obligé de dire amen. Harold est un garçon. Très bien.
Elle lui dit, puisque tu l'aimes tant, marie-toi avec lui. Ça fait rire les deux garçons. Amélie leur dit, arrêtez de dire n'importe quoi. Et puis malheureusement, cette histoire d'Harold est finie.
Auguste hausse les épaules.
Brigitte dit, « Je trouverai bien un autre homme. »
Auguste dit,
« Que son autre homme n'aura pas place aussi bien que son Harold, le vice-président de la Framblant. Il n'y en a qu'un. »
Les jours passent.
Un soir, Brigitte quitte son bureau pour prendre l'ascenseur et quitter le siège.
Il y a du monde dans l'ascenseur. Judith, Mademoiselle Lapin, la secrétaire de direction, l'hôtesse de Judith, Harold. L'ascenseur s'arrête à l'étage en dessous. Et rentre dans l'ascenseur un homme dans les 35 ans, grand, mince, châtain, yeux bleus, visage beau et doux, habillé d'un costume bleu roi. Comme il y a beaucoup de monde dans l'ascenseur, il se met à côté de Brigitte. À l'étage suivant, entrent encore trois autres personnes. Tout le monde se serre. Le pauvre homme qui est à côté de Brigitte se cogne malgré lui à elle.
Il dit, excusez-moi, elle lui fait, vous n'y êtes pour rien? Il lui dit, oui, il y a tellement de monde. « Vous êtes de quel étage ?» Elle lui dit, « Juridiction, conseil. Je suis avocat de conseil. Et vous ?» Il lui dit, « Moi, je suis service publicité pour le groupe. Je suis directeur de ce service. » Elle fait, « Ah !» Elle lui dit, « Oui, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Vous savez, les décisions sont toutes prises par la haute direction. »
C'est comme tous les services, hélas. Ils arrivent au rez-de-chaussée, sortent de l'ascenseur et se dirigent vers la sortie. Avant de sortir, il lui demande « Vous désirez peut-être boire un verre ?» Elle le regarde bien et se dit « Beau garçon, oui merci. » Il lui sourit. Mademoiselle Lapin, qui les dépasse, dit à Judith, « Elle en a de la chance, celle-là. Se payer le beau monsieur Georges, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. C'est un ange, cet homme. Il ne vous regarde même pas dans l'ascenseur. » Brigitte sort et il la suit.
Une fois dehors, il lui dit « Viens dans un café, un peu plus loin, parce qu'ici, l'on risque de retrouver les gens du groupe. » Et elle le suit. Il l'amène dans un café, brasserie, salon de thé, près de l'opéra Garnier. Il y a du monde. La salle est grande, décorée 1900. Des serveurs en veste blanche, pantalon noir, et habillés sur le dessus. Vont et viennent. Les clients sont des gens qui ont de l'argent. La consommation est très chère. Une petite tasse de café égale le prix d'un sachet de café de 250 grammes. Le prix d'un jus de fruits égale un litre de jus de fruits dans un magasin. Et le champagne, la bouteille, c'est entre 10 000 et 50 000 francs. Mais attention, c'est de la très bonne qualité. Et on est entre gens bien, c'est le principal. Il n'y a pas le pauvre prolo qui vient se payer un verre de rouge ou une bière. Donc, pas de prolo ni de boulotte, de lolotte. Malgré le monde, le serveur qui est venu à eux leur trouve une table pour deux. Il lui demande « Vous désirez boire quelque chose ?» Elle lui dit « Oui, un café. » Il dit au serveur « Deux cafés et des croissants. »« Bien, monsieur. » Et il s'éloigne. Le jeune homme dit à Brigitte, « J'ai faim. Il faut que je me présente. Georges Amy. » Elle lui dit, « Moi, Brigitte Borsch. » Il lui demande, « Ça fait longtemps que vous êtes dans cette maison ?» Elle lui dit, « Oui. En fait, non. Presque un an. Et vous ?»« Moi, cela fait 5 ans. J'étais embauchée par le vice... Non, par le... Oui, par le vice-président pour la promotion de l'expédition qui a eu lieu pour le sixième continent. La pub a bien marché malgré que l'expédition a été une catastrophe. Vous savez, c'est l'expédition qui a été faite pour aller sur les lieux du sixième continent et tâcher de voir s'il ne restait pas quelque chose. Alors comme la pub a bien marché, on m'a gardé. Dit, votre travail doit être très passionnant. Il lui dit, comme tous les auteurs, des fois c'est dur de trouver un slogan et des affiches pour demander aux gens de dénoncer les SDF pour les faire expulser des villes pour qu'elles restent propres, c'est pas facile. Surtout qu'on ne doit pas faire fasciste, nazi, etc. Elle lui demande, alors qu'est-ce que vous faites? Il lui dit, le bon air, c'est bon pour le pauvre. Et c'est pour ça que les logements sociaux se trouvent en plein champ. Pour éviter la tuberculose et des tas de maladies infectieuses créées par la misère et les taudis. L'on met à la campagne, dans ces champs, les logements neufs et propres pour le pauvre. Si vous voyez un pauvre, dites-lui pour son bien d'aller là-bas. Et cela risquera en même temps pour vos enfants d'avoir la tuberculose. Service d'urgence, ramassage SDF, ville, numéro vert, gratuit, 0800 02 11 00. Voilà, bien sûr, ce n'est qu'une idée grossière, il faut la mettre en forme. Il lui dit c'est très beau. Surtout, le côté, sans le dire vraiment, et que les gens comprennent facilement. Si vous ne voulez pas partir les SDF, vos enfants risqueront d'attraper la tuberculose. Il lui dit. Surtout que dans les films de présentation qui passeront dans les cinémas et télévisions, on montrera le quartier sale et des gens toussant et des enfants qui traîneront. Ensuite, dans le quartier, des enfants viendront pour leur donner à manger. Ils tousseront. Et à la fin du film, une tombe blanche avec le nom d'un enfant et sa date de naissance. De tous en parole, tout le monde comprendra. Il y a aussi un autre slogan qui sera présenté dans les cinémas. Des pauvres qui seront dans des quartiers délabrés, pourris, dans des villes sombres au début, seront dans ces villes sombres et sales, et on les mènera dans des immeubles, en plein champ, lumière, soleil, oiseaux, fleurs, etc., etc. Et les clodos se transformeront en hommes, femmes de blanc vêtus, chantant, dansant dans les champs. Cité radieuse pour les SDF et les pauvres. Nouveau HLM, franc blanc de luxe. Si vous voyez un SDF dans votre quartier, dites-lui de téléphoner au 0800 02 11 11 00. Appel gratuit et on l'amène là-bas. Elle lui dit, c'est merveilleux. Mais une fois là-bas, ils vont désenchanter parce que c'est les camps de la mort. Elle lui dit, ce sera trop tard pour eux. Pas de retour et le cimetière est à deux pas de la cité. Le serveur leur apporte leur café. Et lui demandez-vous, elle lui dit, oh, moi, c'est le travail à la chaîne. Je dois convaincre les gens à partir. Et c'est triste parce que tout le monde veut rester chez soi. Je vois. Mais parlons d'autre chose. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Vous êtes marié ? Elle lui dit. Non, ni fiancé. Et vous ? Il lui dit. Je suis veuf depuis 2 ans. Ma femme est morte d'un accident de train. Elle fait. Je suis navré. Il lui dit. Oh, on tient le coup. Bien sûr, vivre seul, ce n'est pas facile. Elle lui fait. Je vous comprends. Elle le trouve délicieusement gentil et très beau, mais moins qu'Harold ou Gilbert, mais beau et sérieux. Il lui dit, le plus difficile, c'est le soir après le travail. Se retrouver seul, elle lui dit, oui, je vous comprends. Il se dit, voilà une belle et gentille fille, pourquoi pas. Elle aussi se trouve seule. Peut-être que si on lui disait, nos solitudes. Ils terminent leur café. Elle lui dit, il se fait tard, je dois rentrer. Elle lui dit, mais pourquoi? Vous vivez seul? Elle lui dit, oui, mais j'ai des choses à faire. Lorsqu'on est seul, il y a toujours des choses à faire et personne ne peut les faire à votre place. Il lui dit, je vous comprends. Il fait signe au serveur pour le payer. Le serveur lui donne le prix. Georges lui tend sa carte. Le serveur lui met sur l'écran. Il la lui rend. Puis, ils sortent du restaurant. Il lui dit, je vous raccompagne jusqu'à votre voiture. Elle lui dit, ça ne vaut pas la peine. Elle est en face du siège, ça vous forcera à retourner. Il lui dit, la mienne aussi. Alors allons-y. Elle sourit et ils y vont.
La nuit est tombée, il fait doux, il y a moins de monde dans les rues. Elle se dit qu'ils forment un joli couple et rêve déjà. Harold, c'est loin. Arrivée au siège, elle trouve sa voiture devant le siège.
Merci.
Et lui dit, nous reverrons. Elle lui dit, pourquoi pas.
Quand?
Elle lui dit, disons jeudi. Après le travail. Il lui dit,
je vous amènerai voir une pièce. Fils de personne, de Monterland.
Elle lui dit, d'accord. Se tend la main et elle entre dans sa voiture. Il la regarde partir. Elle est heureuse. Elle se dit qu'elle n'a pas mis longtemps pour trouver une personne. Lui est très bien. Elle entre dans son appartement, toute heureuse. Elle n'est pas fatiguée et se fiche de tous ces gens à expédier. Elle va faire vite demain. Elle va marquer sur tous les dossiers à expédier, à expulser. Comme on dit, le bonheur fait le malheur des autres. Si elle n'avait pas été heureuse, il y aurait eu trois familles plus heureuses. Mais là, non. Le bonheur se paye, et c'est les autres qui le paye. Elle est heureuse, amoureuse, si l'on veut, donc égoïste. Elle n'a pas de temps à perdre à s'occuper des malheurs des autres. Et puis, il l'empêche de penser à lui.
Dans sa chambre. Et se met une robe d'intérieur en soie beige. Et sort de sa chambre pour aller à la cuisine. Là, à la cuisine, elle se prépare une soupe en sachet. Une soupe en sachet au goût très salé pour cacher le goût de papier mâché de ses soupes. Après avoir mangé sa soupe, un yaourt. Un yaourt qui, soi-disant, donne jeunesse, guérit des maladies ou les protège les gens.
est 0% de matière grasse, donne la forme, etc. C'est un produit diététique pontois de luxe à 0% de matière grasse, comme la soupe est un produit pontois aussi. Elle fait toutes ses courses au siège, où il y a un supermarché du comité d'entreprise qui vend que des produits fabriqués par le groupe. Et comme Pontois fait partie du groupe, il y a tous les produits Pontois. Alimentation, médicaments, eau minérale, télévision câblée, radio, transport, avion, train, bateau, camp de vacances, etc., etc. Pour le personnel, c'est tous des prix très avantageux. Et bien entendu, la Franblanc le personnel peut acheter une maison à 50% de son prix. Elle est très heureuse de tout ça. Le jour passe. Le jeudi, il l'a ramené au restaurant. Puis, ils sont allés voir la pièce. Après, il l'a ramenée. Elle a été enchantée. Il s'est très bien tenu. Il ne s'est rien passé de spécial, mais elle a été très heureuse. Ils sortent une fois par semaine. Ils lui offrent des fleurs et passent. Pour les sorties. Et paye pour les sorties. Il la ramène toujours chez elle. Elle ne lui demande pas de monter chez elle. Elle a peur que ça recommence comme avec l'autre. Et se dit que c'est lui qui doit le lui proposer. Les jours passent. Comme elle est très heureuse, elle veut qu'on le sache. Un soir, qu'elle est invitée chez son père à dîner, pendant le repas, elle lui dit « J'ai trouvé un jeune homme charmant, très bien. » Il lui dit « Ah, tu vois, j'ai pas mis longtemps pour trouver une autre personne. » Il dit « Oui, mais qui est-ce ?» Elle lui dit « C'est quelqu'un de très bien. Il travaille à Franblanc. Il est dans la publicité et directeur de son service. S'appelle Georges Amy. » Auguste dit que c'est déjà bien qu'il travaille à la Franblanc, mais ça ne vaut tout même pas à Harold. Amélie demande « Tu nous le présentes quand ?» Elle lui dit « Nous n'avons pas encore parlé de fiançailles, ce n'est que le début. » Auguste fait oh. Elle hausse ses épaules. Frédéric se dit que ce n'est pas encore fait. Mais elle est vexée et veut leur prouver que c'est du sérieux. Et pour le prouver, elle veut que ça aille plus loin, mais en douceur. Un jeudi, en la quittant, il lui dit « Si vous voulez, on peut se voir le samedi. Ensemble, nous pourrions aller à la campagne. » marcher un peu ? Elle lui dit, j'accepte avec joie. J'en suis très heureuse de pouvoir aller à la campagne. Il fait si beau. Il lui dit, bien, je viendrai vous chercher samedi à 9h. Mais est-ce trop tôt ? Elle lui dit, répond, non, pas du tout, c'est très bien. Et le samedi à 9h, il est venu la chercher. Il l'amène sur les bords de Loire. Il va s'arrêter dans un petit village. Le petit village est près de la Loire. Il est près de la Loire avec de vieilles maisons. Une belle église, un lavoir. Un château un peu plus loin. Et il y a un bois. Il y a aussi, bien entendu, une auberge. Le tout est très typique. Les bouleversements n'ont pas touché cet endroit. Il y a des coins en France qui ne bougent pas, malgré les révolutions, les guerres, les bombardements, les changements techniques. Eux, ils ne bougent pas. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.